attendait.
Bonjour Claude Pierrard.
Bonjour David.
Comment ça va?
Bien, bien. Après cette période un peu neigeuse, ça va bien.
Oui, je vous le fais pas dire. Je vous fais un petit peu parler parce que ce qui a le plus séduit nos amis, c'était tout d'abord d'avoir de vos nouvelles, de reprendre contact, mais surtout d'entendre votre voix.
Bon, bah écoutez, j'espère que la voix n'a pas changé, le physique un petit peu, parce que j'ai pris quelques kilos, mais la voix doit être à peu près la même.
Je pense aussi, mais c'est vrai qu'ils étaient ravis d'apprendre qu'on vous mettait à l'honneur et que vous aviez pris contact avec nous spontanément pour répondre à leurs questions. Donc, bon, on vous souhaite la bienvenue sur 80s.fr et surtout un grand merci de nous accorder cet entretien.
Bah, merci beaucoup, parce que j'ai beaucoup apprécié votre site qui est très sympathique. Et puis en plus, bien documenté et vraiment très agréable à suivre et à regarder. J'y passe beaucoup de temps.
Oh bah ça, c'est gentil. Donc on va faire un petit retour en arrière sur votre carrière. Ensuite, on va aborder les différentes émissions auxquelles vous avez pris part. Et bien sûr, on parlera de Croque Vacances, hein, qui est une des émissions vedettes de notre enfance. Et puis aussi prendre de vos nouvelles, savoir ce que vous devenez.
Donc, d'accord, on y va.
Voilà, tout d'abord la question traditionnelle sur le site. Est-ce que vous pourriez nous décrire la vision générale que vous gardez des années 80, pas nécessairement de Croque-Vacances, puisqu'on va y revenir longuement, mais d'une manière plus globale, la société, les médias, comment un adulte pouvait vivre à cette époque, ce qu'il en retient maintenant?
Écoutez, je crois qu'avec le recul, c'était des années d'insouciance. Parce que, si on veut reprendre une expression à la mode, on n'était pas tributaire du triple A. Quand je dis triple A, ça veut dire l'argent, l'audimat, et puis également un petit peu l'arrivisme. Donc, ce qui n'est pas le cas maintenant, tout au moins en ce qui concerne la télévision. Sur un plan plus général, bon, ça a été des années qui ont été un petit peu, troublées par les différents changements sur le plan politique, mais qui n'affectaient pas tant les gens, si vous voulez, dans leur vie quotidienne, qu'on passe de la droite à la gauche en 1981, ça n'a pas eu beaucoup d'influence. Certains étaient contents, d'autres pas, mais on n'avait pas cette impression qu'on a maintenant, même si on reste avec les mêmes gouvernements ou si on change dans les semaines ou les mois qui viennent.
D'accord, très bien. On sent que vous gardez non pas une nostalgie, mais une petite mélancolie par rapport à cette période.
Je crois que c'est un petit peu tout le monde, si vous voulez. On a l'impression que c'était toujours mieux avant. Bon, oui. Je pense que c'était quand même mieux avant. Si je me remets dans la situation des jeunes de l'époque et des jeunes de maintenant, ou même des adultes comme je l'étais, c'était une époque où on pouvait encore, mais c'était déjà la fin des années d'or, si j'ose dire, où on pouvait se dire, on change de métier et on est à peu près sûr d'en trouver un dans les jours ou la semaine qui vient, simplement pour se rapprocher de son domicile ou pas. Ce qui malheureusement n'est plus possible, puisque maintenant, on est plus tenté ou obligé plutôt de s'éloigner de son domicile pour trouver du travail.
Exactement. Justement, en parlant de métier, on va parler un petit peu du vôtre. Puisque vous avez débuté votre carrière comme journaliste à la télévision de Reims, puis sur la troisième chaîne. Donc on voulait savoir quel souvenir vous gardiez de cette période ORTF. Est-ce que vous considérez comme un précurseur ou comme un pionnier du journalisme télévisé?
Non, parce que des pionniers, il y en a eu un petit peu avant. Heureusement, je ne fais pas partie de la première génération, ce que j'appelle la grande génération vraiment des entrepreneurs et qui démarraient, c'est-à-dire dans les années 50, les Pierre Sabat, Pierre Tchernia, voilà, qui ont créé les premiers journaux télévisés avec peu de moyens et peu de téléspectateurs aussi. Donc je vais dire que je fais partie plutôt de la deuxième vague, c'est-à-dire celle de la télévision régionale qui, dans les années 60, justement, a eu une expansion avec 22 stations régionales qui se sont créées en très très peu de temps. Et donc là aussi, on était des pionniers parce que on avait peu de moyens. La plupart des gens n'étaient pas formés, sortaient pas des écoles de journalisme. Donc on s'est formé sur le terrain. Pour vous dire, à Reims, nous avions qu'une seule caméra. Et l'émetteur était situé à 35 km de Reims parce que nous étions au pied de l'émetteur d'Auvillé. Là, le studio était là parce qu'on n'avait pas les moyens techniques d'envoyer de l'image de Reims centre vers cet émetteur. Et puis après, il y a eu la troisième chaîne. La troisième chaîne, donc, les patrons de la troisième chaîne avaient consigne pour faire cette chaîne de ne pas prendre des journalistes sur les deux chaînes existantes. Donc ils ont regardé tous les journaux télévisés de région, et puis ils ont proposé à certaines personnes de venir présenter le journal à Paris, le journal de la 3, sans augmentation de salaire. Donc c'était vraiment un challenge, si vous voulez. Et parmi ceux-là, ben, y a eu Bill Alliant, Denisot et puis moi, entre autres.
Ce qui nous amène à 1975, où vous présentez le journal de 13h sur TF1, en compagnie justement de Michel Denisot et de Yves Mourouzi, des grands noms du journalisme également.
Bonjour.
Quels sont les journalistes qui vous ont le plus appris ou le plus marqué ?
Oh ben, je crois qu'il n'y a pas de problème, si vous voulez. J'avais un rédacteur en chef extraordinaire qui s'appelait, puisqu'il est décédé, Christian Bernadac, qui avait le flair pour trouver les journalistes et puis savoir faire une association entre certaines personnes. Ça a été le cas avec Yves Mourouzi, en lui associant Denisot et moi. Pour moi, la personne qui m'a le plus marqué, sans aucune hésitation, c'est Yves Mourouzi par son talent, sa façon d'appréhender les choses. Il était même en avance sur son temps parce que il savait passer d'un sujet à l'autre, improviser, sans fiche, sans prompteur, et puis de prendre des risques sur le plan de l'information, d'abord par ses attitudes, par ses interviews, et puis en voulant créer à chaque fois l'événement. Yves, c'était quelqu'un qui regardait jamais derrière lui, et il voulait toujours aller plus loin, faire des choses que les autres n'avaient jamais fait, et que lui-même n'avait jamais fait. Donc ce qui explique les grands directs de Moscou ou d'autres endroits de la Terre. Et à l'époque, c'était pas simple, parce que il n'y avait pas les satellites qui renvoyaient l'image en direct, donc il fallait, pour les gens de la technique, trouver ce qu'on appelle les faisceaux, c'est-à-dire traverser X pays par des antennes pour arriver de la Russie, par exemple, jusqu'en France, jusqu'à la rue Konieksé. Et puis c'était un homme qui était fidèle, qui était entier, aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan de l'amitié. Donc ça, c'est vraiment pour moi un grand monsieur. Et d'ailleurs, très bientôt, je crois que Laurent Delahousse va lui consacrer une émission qui s'appelle dans la série Un jour un destin, où j'ai la chance de participer et puis de dire un peu tout le bien et le plaisir que j'ai eu à travailler avec lui ou à ses côtés pendant 4 ans.
D'accord, c'est avec plaisir qu'on va suivre cette émission. Parce que nous aussi, ça nous intéresse. On a été fortement marqués par le journal télévisé de Monsieur Mourouzi, qui nous a accompagnés aussi toute notre enfance. Hein. On va poursuivre. En 1975, vous vous dirigez également vers l'univers des émissions pour enfants. Vous participez aux Visiteurs du Mercredi. Et en 1978, vous créez l'émission Assilion et sa bande, qui donnera la version finale, on va dire, Croque-Vacances en 1980. Donc pour ces deux émissions, Assilion et Croque-Vacances, ce qu'on souhaiterait savoir, c'était lors de la préparation de ces émissions, est-ce que vous étiez ce qu'on va appeler le décideur principal des séquences qui étaient diffusées, ou est-ce que vous n'interveniez, entre guillemets, qu'en tant qu'animateur, et le contenu était plutôt dicté par la direction ?
Voilà, je vais déjà revenir sur la période 75, où j'ai eu la chance, grâce justement à Christian Bernadac, dont je parlais tout à l'heure, de pouvoir créer le premier journal télévisé pour enfants. Et ça, c'était vraiment une première en France, parce qu'il y avait déjà eu des tentatives de journaux d'information, mais qui ont toujours été faits par des personnes extérieures à une rédaction. Et c'était la première fois qu'un journal télévisé pour les jeunes était fait avec les gens de la rédaction sur le même plateau que le journal télévisé, et les grands intervenants des journaux venaient également expliquer l'actualité aux jeunes. Par exemple, Philippe Labro venait nous parler des élections américaines, Denisot de la Coupe du Monde de football, Emmanuel Delataille du Prix de l'Or, et j'avais à ma disposition tous les moyens de l'information, aussi bien les correspondants en France qu'à l'étranger. Donc voilà, ça c'était pour moi un grand plaisir de pouvoir faire ce journal télévisé pour enfants. Oui. Après donc, il y a eu Assilion, comme vous l'avez dit. Donc là, il fallait occuper l'antenne pendant les vacances, parce que dans un premier temps, à partir de 75, j'ai commencé à faire des émissions pour les vacances, simplement depuis la régie finale, donc le studio des speakerines de la rue Konieksé, en lançant des dessins animés et en faisant un petit peu d'information avec les infos jeunes vacances. Et puis donc Assilion. Assilion était un personnage qui avait été acheté par la chaîne, donc pour vous dire, il ne savait pas quoi en faire. Donc on s'est dit, on va faire une émission, et puis il fallait faire 5 minutes par jour avec ce personnage créé par un procédé qui s'appelait Aniforme, c'est-à-dire qu'il n'était pas à côté de moi, mais en incrustation sur l'image, oui. Ce qui n'était pas très simple. Bon, ça a bien marché quand même. Et puis, c'était aussi en direct sur le plateau du journal. Donc, juste pendant l'annonce Picrine, eh bien, les caméras se retournaient du plateau du journal vers le plateau de Assillon et sa bande. D'accord. Et après, donc, l'évolution, ben, Croque-Vacances, en 80, où là, on avait un peu plus de moyens, bien que réduits encore. Et pour répondre à votre question, bien, l'émission a été marquée proposée et animée. Donc ça veut dire que j'étais absolument décisionnaire de tout le contenu de l'émission, des différentes séquences, et parfois ce n'était pas toujours évident. Donc la direction, j'allais dire, était moins présente, ou les responsables de service étaient moins présents que ce que je pense actuellement. Oui. On vous laissait faire, et puis après, on vous disait, bah non, faut peut-être faire ça ou pas. Mais on vous laissait quand même une grande liberté, ce qui n'est plus le cas maintenant. Par exemple, le bricolage, eh bien, personne n'y croyait. Alors donc, je me suis dit, bon, pourquoi pas essayer, parce que ça me différenciait des autres émissions. On me disait, bah non, c'est ringard et tout. Et puis, quand on a vu le courrier affluer, on s'est dit que c'était quand même une bonne idée.
Oh oui, je confirme. Vous étiez le créateur et le décideur principal. Est-ce que l'émission était le résultat d'un travail d'équipe? Ou est-ce que vous étiez la tête pensante, entourée de vos collaborateurs?
Non, comme l'équipe était très réduite, puisque j'avais trois assistants et une secrétaire, ouais. Donc on était tous dans le même bureau, donc il n'y avait pas de tête pensante, enfin, il y en avait un qui quand même supervisait, mais chacun avait droit de donner ses idées, et c'est souvent comme ça que l'émission a permis d'avancer et puis d'évoluer dans le temps, parce que il y avait une hiérarchie, mais elle n'était pas très importante dans la mesure où c'était une bande de jeunes, parce qu'on avait très peu de différence entre les uns et les autres au point de vue âge, et donc chacun avait ses idées, et puis on essayait de prendre le meilleur de tous, quoi.
D'accord. Vous vous souvenez qui composait le reste de l'équipe?
Oui, bien sûr. Il y avait Martine Anciot, qui après est devenue productrice d'émission aussi bien sur TF1 que sur Antenne 2 à l'époque, avec en particulier Salut les petits loups. Ouais. Et puis l'émission avec Groucho et Chico. Régine Mallet qui a changé après d'orientation pour quitter la télévision. Et puis mon assistante secrétaire qui est Danielle Garcia. Et la première assistante que j'ai eue était Dominique Richard, qui est devenue une productrice importante. Et c'est en particulier elle qui a créé Studio 3 il y a déjà pas mal de temps.
D'accord. Ah bah, bonne mémoire, très bien ça.
Oui.
Ça leur fera plaisir.
Non, parce que l'équipe était réduite. Et puis en plus, j'ai toujours des contacts avec elle. Donc ça veut dire que des années après, bien que plus personne maintenant n'est dans la télévision ou est à la retraite, on est toujours en contact. Donc ce qui prouve que c'était une vraie équipe, parce que 25 ans ou 30 ans après, c'est pas évident d'avoir encore des liens amicaux.
Tout à fait, ça nous permet de les saluer et de les remercier aussi de notre côté d'avoir pris part à l'aventure Assillon et Croque-Vacances.
C'est gentil.
Voilà. Croque-Vacances, justement, on va commencer à aborder le vif du sujet de l'émission. On va tout d'abord parler des tournages et des séquences qui se passaient en plateau. Vous avez tout à l'heure parlé du bricolage. On voulait savoir comment étaient recrutés les intervenants qui effectuaient ces séquences bricolage. Est-ce que c'était des professionnels qui étaient aguerris, qui étaient habitués à ces démonstrations, ou simplement des amateurs qui étaient passionnés de loisirs créatifs?
Mais il y avait de tout. Si vous voulez, d'abord c'était pas des gens de télévision, c'est des gens qui ont été formés à la télévision. En particulier, c'était des auteurs de livres de bricolage. Les éditions Fleurus étaient vraiment un vivier important pour nous, parce qu'il y avait de nombreux auteurs dans différentes catégories. Et puis des journaux aussi qui avaient des rubriques créatives comme Système D, comme Marie-Claire Maison, donc Sans Idée aussi. Et puis on créait aussi des besoins, c'est-à-dire qu'on a trouvé un cuisinier qui qui était pas loin de la rue Queniègé, et puis par exemple Catherine Reffaber, la créatrice des poupées Corolle, oui. où on a décidé de faire des vêtements pour poupées, et on a même créé une poupée qui s'appelait Croquinette, parce qu'on faisait des vêtements, mais sans avoir, je veux dire, un modèle de poupée au point de vue taille, et donc on a créé une poupée pour que les vêtements puissent être adaptés à une poupée bien particulière. Donc, en ce qui concerne les différents auteurs, si vous voulez, c'était des gens, comme je vous l'ai dit, qui n'étaient pas formés à la télévision. Certains se sont très vite mis, au goût du jour, comme Geneviève Ploquin, Claude Soleillant et bien d'autres. Geneviève Ploquin, pour rappeler, c'était la dame qui ressemblait à une mamie, qui avait un chignon et qui avait beaucoup de fou rire. Et donc, ça nous arrangeait bien parce que c'était, comme j'allais dire, une bonne cliente. Et puis, ceux qui n'étaient pas bons, malheureusement, ils venaient une fois et puis on essayait une deuxième fois. Puis, si ça marchait pas, malheureusement, même si leur talent de bricoleur était reconnu, ils ne venaient plus participer à l'émission.
D'accord.
Parce qu'il
n'y
avait pas d'essai, on n'avait pas le temps de faire du coaching ou de l'entraînement.
D'accord, ah oui, c'était improvisé, enfin il n'y avait pas des essais au préalable, des bricolages
Non, pas du tout, non, pas du tout. Ils nous présentaient les bricolages, on essayait de les calibrer dans le temps, c'est pour ça qu'on mettait en deux parties pour qu'ils aient le temps d'avancer dans le bricolage. Bon, parfois, bien sûr, le bricolage fini et était préparé à l'avance, parce que en une heure d'émission, on n'a pas le temps de bricoler.
Oui, c'est sûr.